de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président lance la technologie minière de 5G de PTFI en Papouasie. Le gouvernement invite le secteur privé international à contribuer à la présidence du G20. Le G20 indonésien lève 1,3 milliard de dollars américains du fonds d'intermédiaires financiers. Menkop UKM s'efforce des acteurs de MPME en Papouasie pour passer au numérique. Anis invite les ambassadeurs à aider à promouvoir le potentiel d'investissement à Jakarta. Le gouvernement encourage les campus à collaborer avec les campus étrangers. IOG soutient le ministère de la Main-d'œuvre pour protéger les citoyens indonésiens de la pratique de l'esclavage des navires étrangers. Voici le journal complet. Le président indonésien Joko Widodo a lancé jeudi la technologie de l'exploitation minière souterraine intelligente de Freeport Indonesia Société Anonyme ou PTFI à Mimika en Papouasie. Dans son allocution, le président a déclaré que le secteur minier national ne doit pas être en reste avec les autres pays et doit être en mesure de rivaliser dans tous les secteurs qui sont de plus en plus numérisés. Il a souligné que l'Indonésie a besoin d'une intervention technologique pour faire progresser le secteur minier qui est généralement situé dans des zones éloignées et difficiles d'accès et avec des défis géographiques et une connectivité qui ne sont pas faciles. Le chef de l'État a également révélé que l'Indonésie a pu prouver qu'elle est allée plus loin en mettant en œuvre la première exploitation minière intelligente 5G d'Asie du Sud-Est. Cette technologie 5G consiste à contrôler à distance les opérations minières souterraines afin que les activités minières puissent être surveillées à l'aide des caméras connectées à l'intelligence artificielle et prévenir et minimiser les risques d'accidents du travail. Le gouvernement, lors d'une réunion avec le Conseil commercial de l'ASEAN des États-Unis, USABC à Jakarta le 25 août 2022 a invité le secteur privé international à collaborer et à contribuer concrètement à la présidence du G20 Indonésie et à la présidence de l'ASEAN en 2023. Ce qu'a déclaré l'agent à la coordination de la coopération économique internationale au ministère de coordination de l'économie, Edip Kyopambundi, dans un communiqué officiel à Jakarta récemment. La réunion a abordé diverses questions, à savoir la présidence du G20 en 2022, la présidence de l'ASEAN en 2023, le cadre économique Indo-Pacifique, IPEF, l'économie numérique, l'autonomisation des MPME, les chaînes d'approvisionnement mondiales, les ressources humaines pour soutenir les technologies de l'information et de la communication, TIC, et la finance inclusive. Eddy a déclaré que le gouvernement avait souligné à USABC que l'Indonésie maintenait toujours la confiance internationale. En plus d'être la tête des organisateurs du G20 de cette année, l'Indonésie est également un mandat de l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour résoudre la crise mondiale. La présidence indonésienne du G20 a réussi à lever 1,3 milliard de dollars américains, qui est le fonds intermédiaire financier FIF des divers pays donateurs. Ces fonds sont sécurisés dans le cadre de la prévention, de la préparation et de la réponse PPR. Le coprésident indonésien Wempi Saputra, dans une déclaration officielle à Jakarta mercredi, a déclaré que l'un des efforts visant à assurer une bonne gouvernance pour l'équilibre et l'inclusivité des besoins du FIF pour les pays à revenus faibles et intermédiaires et les partenaires non membres du G20 et à travers de 5e réunion conjointe du groupe de travail sur la finance et la santé au GFHTF le 30 août. La 5e réunion du GFHTF G20 comme suivi des résultats de la discussion de la réunion des ministres des Finances et de la Santé en juin et de la réunion des ministres des Finances en juillet. Au cours des deux réunions, les ministres ont examiné deux mises au point principales, à savoir le FIF et le développement d'arrangements de coordination entre les finances et la santé. Plus tard, les résultats de la réunion du GFHTF serviront de contribution à la deuxième réunion des ministres des Finances et de la Santé en novembre prochain. Le ministre des Coopératives et des Petites et Moyennes Entreprises, Teten Mas Duki, s'efforce de faire entrer les micro, petites et moyennes entreprises, MPME de Papouasie, dans l'écosystème numérique, notamment grâce à l'assistance du Centre de services intégrés aux entreprises, PLUT, pour les coopératives et les MPME. Cela a été dit par Teten Mas Duki après l'inauguration de PLUT de coopératives et des MPME situées dans la région de Dok Lima Atas, sous-district Mandala, Jayapura. Teten a déclaré que PLUT joue un rôle important en aidant les MPME afin que leurs produits puissent être commercialisés soit par le biais de catalogues électroniques pour les achats au sein du gouvernement, soit le commerce électronique. Il a expliqué que les MPME qui sont incluses dans les directives de PLUT devraient également déterminer les produits qui ont une propriété nationale et des biens le caractéristique en Papouasie. Le gouverneur de DKI Jakarta, Anies Baswedan, a invité des ambassadeurs de pays amis qui ont assisté au Forum d'investissement de Jakarta, GIF 2022, pour aider à promouvoir le potentiel d'investissement à Jakarta. Anies, lors de l'ouverture du GIF 2022 à Jakarta, jeudi a déclaré que la vision de construire Jakarta et ses projets potentiels devraient attirer des investisseurs de divers pays. À l'ouverture du GIF 2022, pas moins de 7 ambassadeurs de pays amis ont participé au forum qui a réuni des investisseurs et le gouvernement. Les 7 ambassadeurs de pays amis sont la Corée du Sud, Singapour, le Cambodge, l'Irlande, l'Espagne, le Bangladesh et le Qatar. GIF 2022 est le premier forum d'investissement à se tenir en personne après s'être tenu en ligne en raison de la pandémie de COVID-19. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, encourage les campus publics et privés à collaborer avec les campus à l'étranger. Le directeur général par intérim de la Direction générale de l'enseignement supérieur, de la Recherche et de la Technologie, du ministère de l'Éducation, de la Culture, de la Recherche et de la Technologie, le professeur Nizam à Jakarta, a déclaré que la collaboration améliorerait la qualité de l'apprentissage de la recherche et développerait le potentiel qui existe chez les étudiants. Nizam a salué la collaboration menée par l'Université de Muhammadiyah Professeur Dr. Hamka, UHAMKA, qui a collaboré avec le Collège des arts et des sciences Mariano Marcos State University, MMSU Philippines. La collaboration est réalisée sur le programme d'échange virtuel pour le programme d'études en communication. L'initiative indonésienne pour la justice océanique, IOG, soutient le gouvernement indonésien par l'intermédiaire du ministère de la Main-d'œuvre pour protéger les citoyens indonésiens, WNI, de la pratique de l'esclavage des bateaux de pêche étrangers qui s'est passée largement dans le monde international. Le fondateur de l'IOG, Hassan Wirayuda, lors du lancement du rapport sur la vulnérabilité au travail de la pêche sur les navires étrangers surveillés en ligne à Jakarta, récemment a déclaré que l'IOG avait soulevé la question des pratiques de traite des êtres humains et de l'esclavage moderne. Parce que, selon Hassan, le rapport des Nations Unies ONU a noté qu'il impliquait 40 millions de personnes pour une valeur de 30 milliards de dollars américains. Donc, l'un s'est produit sur des bateaux de pêche étrangers. Hassan a mentionné précédemment que les réglementations concernant la protection des citoyens indonésiens liées à la pratique de l'esclavage moderne sur les bateaux de pêche étrangers sont dispersées dans diverses lois. Parmi elles, la loi sur la main-d'œuvre, la loi sur les relations étrangères, la loi sur les droits de l'homme et même des réglementations au ministère des Transports. Par conséquent, Hassan apprécie l'existence de réglementations spéciales pour assurer la protection des citoyens indonésiens à bord des navires de pêche étrangers. Ces auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de commentaires d'aujourd'hui, intitulée « L'ONU exhorte la communauté internationale à aider le Pakistan ». Vous êtes avec moi, Audrey. Sur le tard, de fortes pluies qui ont provoqué des inondations ont submergé un tiers du Pakistan. On estime qu'au moins 22 millions de personnes, soit environ 10% de la population du pays, sont touchés par les inondations. La carte du centre satellitaire des Nations Unies, UNOSAT, montre que l'eau cumulée détectée par les satellites au Pakistan du 1er au 29 août montre un total d'environ 75 000 km² de terre touchée par les inondations. Selon l'Autorité nationale de gestion des catastrophes du Pakistan, près de 1200 personnes sont mortes des inondations depuis la mi-juin, alors que plus d'un million de maisons ont été détruites ou endommagées. Des pluies de haute intensité ont déclenché des crues soudaines dans presque tout le pays. Les inondations catastrophiques ont détruit certaines infrastructures, notamment des routes et des ponts, et des terres agricoles ont également emporté près d'un million d'animaux. L'ampleur de l'impact causé par les inondations au Pakistan a retenu l'attention du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Dans un message vidéo, Guterres a exhorté la communauté internationale à aider le Pakistan. Il a également invité les citoyens du monde à cesser de s'enambuler vers la destruction de la planète habitée par l'humanité à cause du changement climatique. Il a déclaré qu'à ce moment-là, une catastrophe s'abattait sur le Pakistan. Mais que la prochaine fois, une catastrophe pourrait s'abattre sur d'autres pays. Les Nations Unies ont débroussé une aide de 160 millions de dollars américains ou l'équivalent de 2,3 billions de roupies. L'ONU a également demandé à ses membres d'aider le Pakistan à répondre aux besoins fondamentaux des 5,2 millions de personnes déplacées par cette catastrophe, y compris les 33 millions de Pakistanais touchés. La ministre pakistanaise du changement climatique, Sheri Rahman, a décrit la situation au Pakistan comme une catastrophe humanitaire causée par le climat. Le Pakistan produit moins de 1, des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais se classe dans le top 10 des pays les plus vulnérables aux impacts du changement climatique. Cette année, le Pakistan reçoit près de 200% de pluie, en plus que la moyenne de mousson. Selon lui, de nombreux facteurs provoquent des inondations, mais le réchauffement de l'atmosphère causé par le changement climatique rend les précipitations extrêmes plus probables. Le monde s'est réchauffé d'environ 1,2 degrés Celsius depuis le début de l'ère industrielle et les températures continueront d'augmenter à moins que les gouvernements du monde entier ne réduisent considérablement les émissions de carbone. L'Organisation des Nations Unies, ONU, prévoit d'organiser une conférence sur le changement climatique, également connue sous le nom de COP27. Ou la 27e réunion des parties concernées, en novembre à Sharm el-Sheikh, en Égypte. Cette réunion devrait être un lieu pour discipliner les citoyens du monde afin d'éviter et de protéger la planète où l'humanité vit des catastrophes naturelles. Bon, chers auditeurs, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Voice of the Nation.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire du jour le 2 septembre. Le 2 septembre 1945, cérémonie officielle de la capitulation sans condition du Japon. La cérémonie officielle de reddition inconditionnelle du Japon a eu lieu au bord de l'USS Missouri dans la baie de Tokyo le 2 septembre 1945. La signature de la reddition inconditionnelle du Japon a été réalisée par le ministre japonais des Affaires étrangères, Mamoru Shigemitsu, en tant que représentant du gouvernement civil, et le général Umezu en tant que représentant militaire. Pendant ce temps, les Alliés étaient représentés par le général d'armée Douglas MacArthur en tant que commandant dans le Pacifique Sud-Ouest et commandant en chef des puissances alliées. La signature a été effectuée en présence de représentants de 9 pays alliés. Le processus de réunion ne dure que 23 minutes et diffusé dans le monde entier. Le 2 septembre 1998, Swissair le vol 111 s'écrase dans l'océan Atlantique. Le 2 septembre 1998, le vol 111 de Swissair s'est écrasé dans l'océan Atlantique au sud-ouest de l'aéroport international d'Halifax, en Nouvelle-Écosse au Canada. L'avion a décollé de l'aéroport international John F. Kennedy à New York aux États-Unis pour l'aéroport international de Cointrin à Genève en Suisse. L'avion a été immédiatement brisé en morceaux après avoir heurté l'eau et tué les 229 passagers et membres d'équipage de cabine. Cet accident est devenu le pire record pour l'avion de type MD-11. Le 2 septembre 2018, un grand incendie s'est déclaré à Paco de São Cristóvão. Le 2 septembre 2018, vers 19h30, heure locale, un grand incendie s'est déclaré dans le Paco de São Cristóvão, occupé par le Musée national du Brésil à Rio de Janeiro. Ce musée contient plus de 20 millions d'objets. Le président du Brésil, Michel Temer, a qualifié la perte due à la destruction du patrimoine historique et culturel à la suite de cet incendie d'une valeur inestimable. Le président Temer a déclaré que 200 ans de travail, de recherche et de connaissances ont été perdus. Le musée, qui fait partie de l'Université fédérale de Rio de Janeiro et du ministère brésilien de l'Éducation, a été fondé en 1818. Le bâtiment possède plusieurs collections importantes, notamment des artefacts égyptiens et les plus anciens fossiles humains trouvés au Brésil. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Terjadi, kita takkan bisa meneruskan ini. Bila harus memilih, ku pilih bertahan untuk kita. Tapi sepertinya itu percuma, sebab mereka tak pahami kita. Jangan menentang orang tuamu, karena cintaku bukan untuk bertengkar.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix étrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Voici donc Mon Indonésie et pour le titre... Le programme des héros numériques des MPME 2022 est officiellement ouvert. Le ministère des coopératives et des petites et moyennes entreprises, PME, Tetan Masduki, a déclaré que le programme de sélection des héros numériques pour le micro, petites et moyennes entreprises, MPME 2022, a été officiellement ouvert lundi, le 29 août, et durera jusqu'au 26 septembre 2022. Tetan Masduki, dans un communiqué officiel cité par Antara, a déclaré mardi qu'après avoir été organisé avec succès en 2020, le programme des héros numériques des MPME 2022 a été organisé de nouveau pour rechercher des innovateurs numériques qui s'engagent à aider les acteurs des MPME à progresser en classe et à être plus autonomes avec diverses innovations et solutions numériques. Lady kali ganyang di ekonomik di MPM 2022, ganyakong le pri et de viandrong partenaire du ministère des coopératives et des PME dans divers programmes de numérisation de MPME. Les 10 MPME des aéronumériques sélectionnés collaboreront avec le ministère des coopératives dans le programme de STEC Transformation numérique en 2023, à savoir le programme d'assistance et le développement de la transformation numérique des MPME dans plusieurs régions en Indonésie. En outre, 10 gagnants ont la possibilité de présenter le concours devant des investisseurs en capital risque, des entreprises technologiques renommées, des entreprises publiques, des ministères et d'autres institutions financières. Le concours des héros numériques des MPME 2022 est ouvert à toutes les start-up et tous les innovateurs numériques travaillant dans les secteurs de l'alimentation et des boissons, de la mode et de l'artisanat, ainsi que des technologies agricoles. Les start-up participant au concours doivent avoir des preuves d'activité telles que des applications sur le Play Store ou l'App Store, faire des propositions contenant des profils d'entreprise, des descriptions des problèmes rencontrés par les MPME, des solutions aux problèmes des MPME jusqu'au plan de développement commercial. L'inscription peut se faire via le site officiel www.pahlawandigitalumkm.setcap.go.id. L'initiateur des héros numériques des MPME en tant que le personnel spécial présidentiel, Putri Tanjung, ont déclaré que les héros numériques des MPME avaient réussi à aider les acteurs des MPME à survivre et même à se développer pendant la pandémie de COVID-19 grâce à diverses innovations numériques. Par conséquent, selon elle, l'Indonésie a besoin de plus d'innovateurs numériques qui peuvent aider les acteurs des MPME à progresser. Les héros numériques sont nécessaires pour aider les acteurs des MPME de diverses manières, allant de la numérisation de l'accès au marché, au suivi de la qualité de la production, du financement et de l'accès au financement, de la gestion organisationnelle, de la capacité de production, de l'approvisionnement à la numérisation de la distribution. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Serah segalanya kepadamu. seperti kaca. Jikalau tidak bersabar, hancur berderailah akhirnya. Tabahkanlah hatiku melalui semua itu.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute! Chers auditeurs, bonsoir, c'est le temps pour l'émission de magazine culturel. Vous êtes avec Maudry et je vais vous présenter B de Yutefa en Papouasie. Chers auditeurs, lorsque vous voyagez en Papouasie, vous devez visiter la baie de Yutefa. Cette destination touristique est devenue une conversation il y a quelque temps au milieu de la 20e semaine nationale des sports de Papouasie. Ou PON 2021. En tant que lieu de sport d'aviron, la baie de Yutefa gâte les athlètes avec une vue imprenable. En plus d'offrir une vue imprenable, la baie de Yutefa compte de nombreux sites touristiques, allant des baies des promontoires, des forêts de plaine, des mangroves aux belles plages. Cette attraction touristique est accessible depuis la ville de Jayapura avec une distance d'environ 20 à 30 minutes. La baie de Yutefa est une petite baie de la région de la baie de Yosudarso. Cette zone comprend plusieurs villages, à savoir le village Tobati, Engros et Nafri. Cette baie a une vue distinctive sur les îles coralliennes avec une étendue d'eau bleue. L'un des principaux sites de la baie de Yutefa est le Sac Sentani, prêt à choyer les touristes avec de belles vues. La baie de Yutefa possède une forêt de mangroves de 200 mètres de long depuis le littoral. Les mangroves bordées d'arbres peuvent mesurer de 7 à 12 mètres de haut. ce qui rend la baie de Yutefa luxuriante et fraîche. Sans oublier la beauté de la plage, du promontoire, de la forêt de plaine. Un autre spot, un autre site pas moins beau est la plage de Hamadi. S'étendant sur 2 km, cette seule plage gâtera les touristes avec une vue sur le ciel, l'eau de mer bleue et les vagues de la plage. En plus de la beauté des paysages, la plage Hamadi détient une histoire importante dans le passé. Pendant la Seconde Guerre mondiale, cette plage est devenue le centre de défense des troupes alliées dans la région de Jayapura. Ainsi, lorsque vous venez à Hamadi Beach, vous trouverez de nombreux objets de reliques de guerre, tels que des débris de chars ou navires de guerre. Pas loin de la plage Hamadi, il y a le Mont Mer, qui est très beau. Le Mont Mer détient la légende de l'origine des tribus Tobati et Engros. Ensuite, il y a Tanjung Kaswari, connu pour ses plages fraîches et ombragées avec des rangées de beaux pins. Toute la beauté naturelle de la baie de Yutefa est encadrée par la splendeur du pont de Yutefa, qui s'inscrit en rouge. Ce pont relie la ville de Jayapura, le village de Hamadi au district de Muaratami et a été inauguré en octobre 2019. Ce pont est l'une des icônes de la ville de Jayapura. Bon chargé tard, c'est tout le magazine culturel.
Cinta takkan sejauh ini bila bukan denganmu.
Segala yang berarti kulakukan bersama kamu.
Tuhan mempersatukan kita berdua,
mengukir indahnya cinta
seperti legenda. Kau dan aku percaya kekuatan cinta takkan goyah oleh apapun. Kau dan aku bersama takkan terpisahkan, cinta kita selamanya.
Selamanya
kau dan peluk tubuhku
erat
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Les étudiants de faculté technique ou GM développent des tuiles intelligentes à énergie solaire ». Vous êtes avec moi Audrey. Serge Littard, une équipe d'étudiants de la faculté d'ingénierie de l'Université Gadjah Mada ou GM de Yogyakarta a développé un toit photovoltaïque intelligente à énergie solaire pour répondre aux besoins en électricité des ménages. Les travaux sur cette innovation de toit intelligent à énergie solaire ont été menés par 4 étudiants de la faculté d'ingénierie de l'UGM, à savoir Nifwan Arbi Nugroho, Latif Nur Mahmoudi Wijaya, Muhammad Rafif Taqiyuddin et Maulana Istar. Bien qu'il ne s'agisse que d'une recherche, ce toit intelligent à énergie solaire continuera d'être développé afin que plus tard, d'autres fonctionnalités puissent être ajoutées au toit et puissent être commercialisées afin de bénéficier à la communauté au sens large. Un membre de l'équipe, Nifwan Arbi Nugroho, a expliqué que c'est la même chose que les tuiles en général, mais équipées de cellules solaires. Genting peut être utilisé comme source d'énergie électrique avec un verre auto-nettoyant, afin que la saleté qui adhère à la surface soit facile à nettoyer à l'aide d'un téléphone portable. Ce toit intelligent est équipé d'un arroseur d'eau qui est connecté à téléphone portable intelligent. Le processus de maintenance peut être effectué automatiquement lorsqu'il n'y a pas de pluie. Un autre membre de l'équipe, Latif Nur Mahmoudi Wijaya, a déclaré que l'avantage de ce toit solaire réside dans l'utilisation de la technologie Internet des objets IoT pour faciliter le processus de maintenance automatique de l'appareil. En fait, il a dit qu'avec la technologie, le public peut connaître les performances du précaire solaire, appelé toit intelligent, pour connaître l'état de l'environnement environnant. De plus, ce toit solaire contient divers capteurs tels que des capteurs de température, des capteurs de pluie, des capteurs d'humidité, des capteurs de lumière LDR ou bien Light Dependent Resistor et des capteurs de puissance qui permettent aux utilisateurs de connaître leur état. Bon, cher Jeter, c'est tout l'Indonésie en couleur. De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Java Central intitulée Jenang Gulo, chantée par Prigel Pangayu Anjaruning. Chers amis, la chanson Jenang Gulo raconte les plaintes d'une femme qui a fait une promesse de loyauté à son mari. Mais lorsque leur vie devient plus prospère, le mari oublie en fait sa femme. Bon, chers auditeurs, voici Prigel Pangayu Anjaruning va chanter une chanson intitulée Jenang Gulo. Bonne écoute.
Thank you.
La Voix de l'Indonésie organise de nouveau le quiz international VOI 2022. 8 gagnants recevront des prix attrayants de chaque service linguistique. Préparez-vous, vous pourriez être l'un des gagnants du quiz international 2022 de La Voix de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.